Bien-aimés, ce matin, j'aimerais pas multiplier les paroles. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, c'est la prière que j'ai faite tout à l'heure. Tout ce qu'il y a dans mes entrailles, tout ce qu'il y a au fond de moi, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui restera, c'est que on puisse être ce peuple qui connaît l'Éternel. On puisse être ce peuple qui arrête de se connaître, de connaître des choses, de vouloir des choses. Ce peuple qui connaît l'Éternel. Et ça, je crois que comme on a pu le lire dans ces passages des Écritures, Exode 19, Ézéchiel chapitre 1, Habacuc chapitre 3, eh bien je crois que c'est quelque chose qui vient d'une révélation. Quand on le cherche, comme il nous l'a promis, je crois qu'on le trouve. Et on a besoin que Dieu lui-même puisse faire quelque chose, puisse manifester quelque chose pour que cette connaissance, alors, elle soit réellement en nous. Vous savez, ces trois textes, on appellerait ça dans un langage plus théologique une théophanie. Ça veut dire une manifestation de Dieu. Une visitation de Dieu, on pourrait dire aussi. Eh bien, ce n'est pas arrivé par hasard à Moïse. Ce n'est pas arrivé par hasard à Ézéchiel. Et ce n'est pas arrivé par hasard à Habacuc. C'est des gens qui, chaque fois qu'ils venaient adorer Dieu, selon la tradition de nos pères, ils venaient pour percer le ciel, pas par une adoration charno-spirituelle, mais par un cœur circoncis qui veut vraiment connaître Dieu. C'est des hommes qui ont réellement cherché les intérêts de Dieu et non les leurs. C'était des hommes humbles, c'était des hommes brisés. Et tout ce qu'ils ont recherché durant toute leur vie, tout ce qu'ils ont pu connaître en partie pendant leur vie, eh bien dans ces trois textes, Dieu le leur a fait connaître d'une manière tout à fait particulière, d'une manière très puissante. Et ainsi, grâce à cette parole, et c'est ce dont nous faisons mémoire aujourd'hui, je crois que c'est au cœur de cette fête de Shavuot, eh bien, c'est le don de cette parole, ce don de cette Torah. Grâce à cette parole, eh bien, on peut être nous aussi placés devant ce Dieu. Nous aussi chercher, non par contrainte, mais par amour, et dans cette merveilleuse crainte de l'Éternel, chercher sa face. Apprendre à le connaître. Parce qu'il est le même et parce que nous sommes des hommes de la même nature qu'un Moïse, qu'un Ézéchiel et qu'un Habacuc. Voilà, vous savez, j'aimerais presque m'arrêter là et rien dire de plus. On peut même courber quelques instants nos têtes avant quelques paroles. Père, nous te prions, révèle-toi à nous. Mets en nous, au-delà de toute parole, au-delà de tout sentiment, l'esprit de ta sainteté. Mets en nous l'esprit de ta sainteté. Libère en nous l'esprit de ta sainteté. Apprends-nous à te connaître, ô Dieu de gloire. Et nous serons délivrés, nous serons guéris. Fais-nous des hommes et des femmes qui regardent vraiment à toi. Fais grandir cet esprit de la sainteté. Ne nous laisse pas être piégés. Et qu'on puisse réellement grandir et être transformé de gloire en gloire, par cet esprit de la sainteté. Alors nous serons ce peuple joyeux, tout en tremblant, ce peuple qui est témoin de toi. En vérité. Ces trois lectures, bien-aimés, comme bien souvent, dans ces temps marqués par Dieu, en hébreu, on appelle ça Chag, c'est pour ça qu'on dit Chag Sameach. Alors on dira joyeuse fête, Sameach c'est la joie. Mais Chag c'est des temps, plus que des fêtes c'est des temps marqués, des temps choisis, des temps mis à part par Dieu. Comme l'est le Shabbat, comme sont ces sept temps dans l'année, au sein de ces trois pèlerinages, eh bien, on est souvent mis en face de Dieu lui-même et du plan du salut de Dieu. Et je crois que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est qu'à chacun de ces temps, si nous sommes de ces hommes et de ces femmes humbles qui aiment le Seigneur, c'est que quand bien même on dirait exactement la même chose, on chanterait exactement les mêmes chants, on lirait exactement les mêmes lectures, c'est qu'à chacun de ces temps, on soit face à ce Dieu et face à son œuvre, à son plan de salut, et qu'on puisse grandir, s'émerveiller, puiser à cette même source avec d'autant plus de soif, parce que Dieu, tant après tant, révèle qui il est et révèle son œuvre. Je crois que c'est le cœur de tous ces temps donnés par Dieu. De mettre son peuple à part pour qu'il monte à Jérusalem, pour qu'il vienne vers lui pour l'adorer. Et qu'alors, il apprenne à le connaître et le connaître encore et connaître son œuvre, son ouvrage. Alors quand on vit ces temps, on vit déjà un semblant d'éternité. Parce que je crois pour ma part que c'est ça notre éternité. Notre éternité, c'est glorifier le nom de Dieu. C'est s'émerveiller sur la personne de Dieu. Et quand bien même nous serons avec lui rachetés, sauvés, s'émerveiller de son œuvre, de ses actions, de son si grand salut. Il y a même que là, délivré de ce corps de misère, qu'on pourra dignement le bénir. Bien sûr l'adorer pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il a fait. Et pour le rien, le néant que nous étions, et pour sa splendeur, et pour sa miséricorde, pour son amour, pour sa bienveillance, pour sa bonté, oui, qui durera toujours. Et dans ces temps, eh bien, on est face à lui. On est face au plan du salut. Et ces trois lectures, ces trois théophanies, ces trois manifestations de la gloire de Dieu, elles nous placent premièrement devant sa personne. La lecture de l'Exode que l'on a faite, c'est la personne de Dieu. Dieu révèle qui il est. Je suis l'Éternel. Et Dieu donne son instruction, ses prescriptions, pour nous mettre à part, pour faire de nous un peuple saint, un peuple séparé. Et de là, déployer son agir, déployer son salut. Et c'est ce que l'on voit dans cette deuxième vision apocalyptique du prophète Ézéchiel. Chez Ézéchiel, on voit qu'il manifeste son agir. Après avoir manifesté sa personne au Sinaï, il manifeste son agir, son action à Jérusalem, son salut, son amour. On avait, on pourrait dire, une révélation de sa gloire sur le mont Sinaï, statique, immobile. On retrouve exactement les mêmes signes, les mêmes éléments dans cette manifestation de la gloire à Ézéchiel, mais on a là une manifestation de la gloire, on pourrait dire, dynamique, en mouvement, qui avance. Après avoir révélé qui il est, face à ces lectures, Dieu nous révèle en Ézéchiel ce qu'il veut faire. Et on a un Dieu qui veut sauver, qui veut répandre sa gloire sur toute la terre, parmi toutes les nations. Et Ézéchiel, cette vision, il l'a lorsque Israël était à Jérusalem dans le temple. Et Israël va partir en exil. Alors, il voit quelque chose que l'on ne peut pas décrire. Il a essayé de le décrire. Il a essayé de le décrire avec ses mots, mais il ne pouvait pas, parce que c'était trop glorieux. C'était trop magnifique. Il a vu cette gloire, Ézéchiel. Et cette gloire, elle quittait le temple. Et cette gloire, elle partait. Et cette gloire, elle avait l'aspect d'une ressemblance humaine. Cette gloire, elle était comme cette Torah, comme cette parole de Dieu, comme ce Fils de l'homme qui part. Dieu dit au travers d'Ézéchiel à son peuple, « Vous allez partir en exil, vous allez souffrir, mais vous, mon peuple Israël, qui allez souffrir, qui allez être bafoué, persécuté, pour que les païens des nations puissent rentrer dans mon alliance que j'ai faite au Sinaï, au travers du sang de mon Fils, de ce Fils de l'homme, vous allez partir en exil, mais ma gloire, ma Shrina, elle va vous accompagner. C'est à cause de vos péchés aussi, ne l'oublions pas, de vos cœurs, comme on voit Paul le dire aux Juifs lorsqu'il va d'abord dans la synagogue, à la fin des Actes des Apôtres, parce que vous ne voulez pas entendre, selon ce qu'a prophétisé Ésaïe. Vous avez des oreilles, vous ne voulez pas entendre, des yeux, vous ne voyez pas, vous ne voulez pas saisir, comprendre, pour que votre cœur soit guéri. Alors je me tournerai vers les païens. À cause de vos péchés, vous allez partir en exil. Mais courbons-nous devant ce mystère. À cause de vos péchés, oui, mais aussi à cause de mon amour, à cause de ma volonté de sauver toutes les nations. Alors, ma gloire vous accompagnera, vous protégera, vous resterez un peuple. Même après 2000 ans d'exil, vous resterez un peuple. On sait très bien, si on est honnête, que toutes ces prophéties de l'exil avaient trait à un exil plus grand, plus long que celui de Babylone. Et ces paroles, elles sont pour ce grand exil. Comme ces paroles de restauration, elles sont pour cette grande restauration. Le peuple n'avait pas été dispersé parmi les nations à Babylone. Il l'a été après le Messie, sous le joug des Romains. Alors, ma Shrina, ma gloire, ma personne, ma sainteté, accompagnera le peuple dans son exil. Mais elle accompagnera aussi mes témoins. Elle accompagnera aussi mes témoins. Ces roues que l'on voit, pleines d'yeux tout autour. Tous ces récits apocalyptiques, il faut les comparer, les étudier avec l'Apocalypse. On ne va pas aller dans les détails, mais vous retrouvez ces yeux. Ils sont pleins d'yeux tout autour dans l'Apocalypse. Et ils adorent nuit et jour. C'est là une image du peuple de Dieu. Eh bien, ce peuple de Dieu, ces témoins qui ont reçu le Messie, eh bien, ils sont envoyés. Ils sont envoyés, ils sont ces roues qui ont l'esprit des animaux, qui ont l'esprit du Messie, qui ont l'esprit de ce Fils de l'homme, qui ont cette gloire qui est descendue au Sinaï, dans leur cœur, non pas sur les tables de pierre, mais dans leur chair, dans leur cœur, comme un feu. Ils ont cet esprit et ils marchent droit, ils ne regardent pas en arrière. Ils font la stricte volonté de Dieu parce qu'ils l'ont connu. Et parce qu'ils l'ont connu. Et parce qu'il leur a été révélé qu'il était Dieu. Ils ne peuvent, ils ne pensent, rien faire d'autre que faire sa stricte volonté. Et ils avancent, pas à tâtons, comme pas comme en battant de l'air, mais par l'esprit de la sainteté de Dieu. Par l'esprit de Dieu, ils avancent et ils parcourent le monde. Alors que le peuple qui a péché et qui fait partie de ce grand mystère du salut part en exil et que Dieu le garde pendant 2000 ans comme un peuple dans son adoration, comme on l'adore matin, midi, soir, à chaque Shabbat, à chaque temps marqué, à chaque nouvelle lune, à chaque saison. Eh bien, gardant ce peuple, il veut faire avec ses témoins, comme il a fait avec les apôtres, pour répandre la révélation de sa personne et de son salut. Cette Torah qui a été donnée à Israël, et c'est ce que dit Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, eh bien, elle est appelée à être répandue par toute la terre. Jésus, c'est l'accomplissement de cette Torah. La Torah, ce n'est pas une loi en hébreu. C'est une instruction. C'est même, il y a même le sens de visitation. Ça veut dire une instruction pour aller au but. Le péché veut dire manquer le but. La Torah, on pourrait dire, c'est un arc qui nous aide à mettre la flèche dans le jaune, en plein milieu de la cible, parce que c'est là la gloire de Dieu, c'est là notre éternité. Et Jésus est l'accomplissement de cette Torah, le Verbe de vie. Alors Dieu, dans sa gloire, accompagne ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors, bien-aimés, on voit à la fin du livre d'Ézéchiel que le peuple revient de l'exil. Il les ramène. Quand cette saison est terminée, quand son agir par le péché des nations et par le fait que la totalité des païens soit entrée dans l'alliance, lorsque la saison est finie, la gloire revient à Jérusalem à la fin du livre d'Ézéchiel. Et c'est dans les temps dans lesquels nous sommes. Cette gloire, elle revient avec ses exilés que Dieu a gardés. Elle revient à Jérusalem. Et ceux qui ont réellement reçu sa gloire, les vrais témoins, qu'ils soient juifs ou païens, de quelque nation, de quelque tribu, de quelque langue, voient et savent que cette gloire revient à Jérusalem. Et cet esprit, qui est l'esprit de la sainteté de Dieu en eux, atteste ces choses de la même manière qu'il atteste qu'ils sont enfants de Dieu. Il atteste que cette gloire, elle revient sur Jérusalem. Et qu'elle veut encore visiter ce peuple qui a été gardé, ce peuple massacré, revenu sur sa terre. Eh bien, elle va le visiter comme jamais. Elle l'a visité lors de la première Pentecôte accomplie pour partir, pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Elle a visité, pourrait-on dire, les croyants, pour répandre cet évangile. Eh bien là, elle vient pour visiter, comprenez mon langage, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas pu croire, mais ceux que Dieu a gardés dans sa main, au Messie je parle, tout en croyant parfois plus que ce qu'a été l'Église, et souvent plus au vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et alors qu'il a ramené ses exilés, cette nouvelle Pentecôte, cette deuxième Pentecôte, Pierre avait parlé de cette prophétie de Joël, elle ne s'est pas pleinement accomplie. Et son accomplissement plaignait, il vient. Il vient pour Israël. Et cette gloire, oui, comme Ézéchiel le voit à la fin de son livre, elle revient à Jérusalem. Et à la fin, Ézéchiel retrouve un temple reconstruit, glorieusement reconstruit. Et il entend à nouveau un bruit, à nouveau un vent impétueux. Et cette kavod, cette gloire de l'Éternel, elle revient dans le temple. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et là, on arrive à ce troisième texte. Cette vision d'Habacuc, le prophète. Le retour du Seigneur. Il avait dit aux apôtres sur le mont des Oliviers, lorsqu'il est monté dans sa gloire. Ne restez pas comme ça. Allez à Jérusalem, attendre ce qui vous a été promis, vous serez mes témoins et je reviendrai de la même manière. Et le Seigneur revient. Et Habacuc, il a cette vision terrible du retour du Seigneur. Lui qui a manifesté sa personne, le livre de l'Exode, lui qui a manifesté son agir, son salut, son amour, jusqu'aux extrémités de la terre, est en train d'accomplir toutes choses, et lui revient. Lui revient, et là, bien-aimé, comme le voit terrifié Habacuc, tout tremblant, parce que c'est son jugement, ses jugements, sa colère, lui qui a manifesté sa personne, lui qui a versé son sang, lui qui a envoyé son Saint-Esprit, lui qui a parcouru toute la terre, lui qui a ramené son peuple comme un signe pour sanctifier son nom pour toutes les nations de la terre, revient, et celui qui n'aura pas reçu ce don de cette Torah, quand je dis Torah, ça veut dire tout ce que je viens d'énoncer. Celui qui n'aura pas reçu la Torah, celui qui n'aura pas voulu la Torah, eh bien malheur à lui. Malheur à lui, comme disait Jésus. Parce que ce Dieu a répandu son amour qui fait profondément partie de son être pour sauver. Vous savez, on aura toute l'éternité pour se rendre compte. On a besoin d'abord de connaître sa sainteté pour connaître réellement qu'est-ce que son amour, sa justice, pour connaître sa miséricorde. Eh bien, ceux qui n'auront pas voulu la recevoir, eh bien oui, malheur à eux. La terre va être ébranlée. Toutes les nations vont être jugées. Et c'est ce que voit Habacuc. Ce grand Dieu redoutable, mais plein d'amour, plein de compassion, rejeté, eh bien, va mettre un terme. Comme il avait voulu le faire avec Noé, au temps de Noé, mais qu'il a eu pitié de Noé, qu'il a fait rentrer dans l'arche. On a lu ce psaume 118 tout à l'heure, c'est ici la porte, les justes y entreront. Ceux qui ont passé la porte de l'arche ont été sauvés du déluge. Mais Dieu voulait tout détruire. Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. C'est terrible, parce que le cœur de l'homme se portait toujours vers le mal. Eh bien, il a laissé rentrer Noé par cette porte, et ses animaux, et c'est toute la création qui attend le retour de ce grand éternel. C'est toute cette terre qui a chuté avec nous, qui est blessée par le péché, qui va rentrer dans la gloire de Dieu, par le retour de Jésus, qui a dit « Je suis la porte, seul chemin ». La seule vérité, la seule vie. Et c'est par lui que nous pouvons rentrer dans cette arche, rentrer dans cette alliance. Mais aussitôt que la porte sera fermée, et la porte est en train de se fermer, la porte de la grâce se ferme, alors le déluge va tomber, les jugements de Dieu vont tomber, et tout ce qui n'est pas dans l'alliance sera ébranlé. Et c'est ce que nous montre cette prophétie d'Habacuc. Mais les derniers versets nous montrent la confiance du prophète et même sa joie. Et même sa joie. Pourquoi ? Parce que ce prophète, et c'est toute l'attitude qu'on devrait avoir aujourd'hui, il connaît son Dieu. Il connaît sa personne. Il voit son agir. Et il voit ce qui va venir à la fin. Il est terrifié et en même temps, il se réjouit. Ou on pourrait dire, il se réjouit. Et en même temps, il est terrifié. Je parle des derniers versets. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Comme vous lisez à la fin du livre de Malachie, il y aura une claire séparation entre ceux qui craignent Dieu et qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et les uns sauteront comme des veaux bondissant d'une étable et fouleront les rebelles. Ceux qui n'ont pas craint et servi l'Éternel, ils seront comme de la cendre sous leurs pieds. Certains seront cendres et d'autres seront des biches qui bondiront à la rencontre de leur Messie. Et je crois que c'est exactement l'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui. On doit avoir quelque chose en nous qui se réjouit de tout cœur, qui est rempli de joie, d'impatience d'aller à la rencontre de l'Époux. que soient consommées les fiançailles par le mariage. Et en même temps, si nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, il y a quelque chose en nous qui souffre. Il y a quelque chose en nous qui se lamente. Il y a quelque chose en nous qui est terrorisé. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a mis son amour en nous. Et de la même manière que Dieu souffre de voir les gens se rebeller et ne pas vouloir prendre ce joug de la Torah rendu léger par le Messie qui a versé son sang, eh bien, nous ne pouvons que souffrir de voir ces multitudes qui ne rentrent pas dans l'arche, mais qui partent en enfer, qui vont être de la cendre, qui vont être détruites à tout jamais par la puissance de ce Dieu qui sera juste dans tous ses jugements. Et nous le louerons pour ses jugements, parce que nous l'aimerons. Il y a, lors de la fête de Pessah, cette idée, comme une histoire, un midrash si vous voulez, qui dit que lorsque, vous lisez ça dans Exode 15, qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris les tambourins, ils ont dansé, et les anges voulaient se joindre à la louange d'Israël. Mais Dieu leur a dit, non, ne vous joignez pas à leur louange, parce que les Égyptiens sont dans la mer. Et c'est exactement ce sentiment que je crois qu'on est appelé à avoir dans nos cœurs. Dieu n'a pas dit à Israël, ne te réjouis pas. Mais il a dit aux anges, ne vous réjouissez pas avec eux. Vous voyez ce paradoxe, cette dualité entre ce qui est et ce qui vient. On se réjouit dans les arts de l'esprit de ce qui vient, et en même temps, on est encore dans ce qui est. Et on souffre de la mort du pécheur. Quand bien même nous prions avec Israël d'être délivrés de tous les ennemis, et que nous combattrons avec le Seigneur pour les écraser tant qu'il n'est pas revenu, il y a une souffrance dans nos cœurs. Il y a une souffrance dans nos cœurs. Alors bien aimé, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais utilisons, recevons ce temps marqué pour renouveler notre engagement à la suite de notre Seigneur. Comme nos pères le font chaque année, ils célèbrent le don de la réception de la Torah et ils renouvellent alors leur acceptation de ce cadeau, pourrait-on dire, de cette grâce de la Torah. Parce que pour qu'il y ait une alliance, bien-aimé, ben, il faut deux personnes. Il y a la personne de Dieu et il y a la personne que tu es et que je suis. Si nous ne renouvelons pas notre alliance, et dans la tradition de nos pères, pour celui qui, avec cœur, vient à l'Éternel pour recevoir tout à nouveau la Torah, eh bien Dieu redonne sa Torah. Dieu redonne tout à fait fraîchement sa Torah. C'est un peu ce que l'on fait au repas du Seigneur. On fait mémoire de la mort de Jésus. Et alors Jésus se communique à nous dans son esprit. Eh bien ainsi, en ce temps de Shavuot, alors qu'on va maintenant s'avancer les uns après les autres pour consacrer nos vies, eh bien recevons tout à nouveau cette personne de Dieu, cet agir, ce salut de Dieu. Et nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Recevons aussi la crainte, l'amour, la compassion, mêlée de joie de son retour. Avançons-nous face à toutes ces choses comme tout à nouveau. Et renouvelons notre serment. Dieu a fait serment. Dans le terme Shavuot en hébreu, il y a cette signification du serment aussi. Dieu a fait serment. Je répète, comme pour un mariage, il y a besoin que deux personnes disent oui. Il y a besoin que deux personnes soient scellées ensemble. Alors, ce que Dieu a uni, personne ne pourra le désunir. Alors que nous puissions nous approcher de ce Dieu de l'Alliance pour faire nous aussi serment de tout notre cœur avec lui, bien-aimé. Père Céleste, je te prie de nous placer devant ta personne maintenant. devant qui tu es. De nous placer devant toute ton œuvre qui nous dépasse. Une vie faite de Shabbat en Shabbat, de nouvelle lune en nouvelle lune, de fête en fête, de Shemitah en Shemitah, ne suffirait pas pour pouvoir, je dirais, nous consacrer dignement devant qui tu es, devant la grandeur de ton œuvre et devant la compréhension de l'accomplissement de ton œuvre. Utilise cette fête pour nous faire grandir dans la connaissance de toi, dans la connaissance de ton œuvre, dans la compréhension magnifique, merveilleuse de ton œuvre de salut qui nous dépasse. Et dans la compréhension et la connaissance de ton retour pour lequel nous sommes faits. Utilise ce temps pour nous faire grandir dans ces choses et permets maintenant à chacun de s'avancer vers toi avec un cœur humble pour que tu te révèles comme tout à nouveau à lui. Père, nous voulons recevoir tout à nouveau ta Torah, tout à nouveau le Messie, tout à nouveau le Saint-Esprit, tout à nouveau ces trois textes, ta personne, ton œuvre et ton retour. Bénis-nous en ces instants, sois celui qui daigne parler à chacun au-delà de ses paroles et te révéler en ce jour. Amen.